chiffres excellents étant donné le très important ralentissement économique de la fin d'année. Commentaire du secrétaire d'État chargé des PME, Hervé Novelli. Nous allons à la Bourse de Paris.
La Bourse avec Exia Saisi, école supérieure d'informatique en ingénierie et management des systèmes d'information.
La Bourse en légère hausse, Antoine Verlin.
Et oui, Angélique, dans un contexte économique toujours très morose, la défiance des investisseurs à l'égard des marchés actions se vérifie chaque jour un peu plus. Mais aujourd'hui, soutenu par ses valeurs financières, eh bien le CAC 40 se redresse modérément, plus 0,44%. Il est à 2862 points dans un volume d'affaires global de 500 millions d'euros négociés. Alors ainsi, Société Générale et Crédit Agricole ont l'intention de regrouper leurs activités de gestion d'actifs. Du coup, Société Générale bondit de 7,14%, Crédit Agricole plus 4,87%. BNP Paribas, qui prévoit un bénéfice net 2008 d'environ 3 milliards d'euros, est en hausse de 4,96%. Sur le marché d'échange, l'euro se redresse également. Il est à 1,2953$. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 tente de redresser la tête. Il gagne actuellement 0,43%. Il est à 2862 points, mais perd encore 11% depuis le 1er janvier. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
L'évolution de la bourse en temps réel.
Les valeurs du CAC 40.
Les indices et les marchés.
En cliquant bourse
sur franceinter.com.
Bonjour, c'est Yves Calvi, aujourd'hui l'invité de Nonobstant est le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir. Il dirige désormais le monde des religions, mais c'est la philosophie qui l'a amené à s'intéresser à la spiritualité. Il nous parle de la pensée, de la foi, de la réflexion et des grandes rencontres qui l'ont impressionné, que ce soit l'abbé Pierre, Mère Teresa ou le Dalai Lama. Bref, Frédéric Lenoir est d'abord un esprit curieux.
Nonobstant, Yves Calvi, du lundi au jeudi à 17h.
La différence.
Il est 10h06, je vous souhaite une très bonne journée à tous qui commence avec Service Public et Isabelle Giordano. Bonjour Isabelle.
Bonjour Angélique, vous l'avez dit, nous allons revenir sur la tempête et puis on parlera également ordinateur. Votre outil de travail, hein, Angélique, quotidien.
Absolument.
À tout à l'heure, à 11h, un autre point sur l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Et oui, difficile hein, ce matin de ne pas revenir sur cette actualité, cette tempête qui a paralysé une partie de la France ce week-end. Encore 800 000 foyers privés d'électricité et 300 000 sans téléphone. Alors, à quel moment pourra-t-on revenir à la normale et quel sera le rôle exact joué par les assureurs? Deux questions parmi d'autres que nous souhaitons aborder ce matin dans Service Public avec vous, les auditeurs de France Inter. Alors que vous habitiez oui ou non dans cette région, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, vos réactions et puis vos questions, bien sûr, aussi sont les bienvenues ce matin aux 01 45 24 7000. Nous allons parler également d'une autre actualité, Microsoft, à nouveau sur la sellette. En effet, Microsoft est accusé de position dominante par les autorités européennes. Bruxelles reproche au géant américain la vente liée de son navigateur Internet Explorer. Alors des logiciels à moindre coût, l'ordinateur moins cher et vraiment accessible à tous, est-ce possible ?
Bon, après, je le sélectionne, je ferme, et maintenant c'est celui-là qui sera sélectionné.
D'accord.
Parce que quand tu cliques ici,
oui. Tu
peux hiberner, redémarrer, éteindre.
On va pouvoir passer à ce monsieur une clé USB qui contient des
outils. Voilà, extrait du reportage d'Antoine Lee. Vous découvrirez dans un instant ce qu'on appelle les install-parties. Je vous en dirai plus dans un tout petit instant. 01 45 24 7000, le numéro du standard de Service Public où vous pouvez, comme je l'ai dit, nous apporter vos témoignages. Vous pouvez également poser toutes sortes de questions sur cette actualité, sur cette tempête qui secoue encore la France. Nous allons répondre bien sûr à vos questions. Nous allons dialoguer tous ensemble. Et puis nous aurons aussi dans un tout petit instant un assureur, le Jean-François Lecoy, le délégué général de la Fédération des Assurances. Nous parlerons également avec nos collègues de France Bleu. Dans un tout petit instant, j'aimerais vous présenter mes invités qui débattront tout à l'heure de cette question. L'ordinateur, est-il vraiment accessible à tous encore aujourd'hui en 2009? Pour y répondre, Frédéric Couchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'APRIL. L'APRIL en un mot, vous me définissez, l'association?
Alors, l'APRIL en un mot, c'est l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. On est constitué de 4000 membres aujourd'hui.
Vous avez écrit un courrier à Service Public. Hein, vous nous avez envoyé une petite lettre, on vous a répondu. courrier. Enfin, on a mis quelques temps. Hein.
J'avais écrit ce courrier, je crois, en janvier 2008, oui, pour vous alerter sur le problème de la vente liée ordinateur logiciel. Et suite à ce courrier, vous aviez organisé une première émission avec ma collègue Alix Cazenave, je crois, en juin 2008.
Et c'est un sujet qui est encore plus dans l'actualité parce qu'on voit que les logiciels libres se vendent de plus en plus. Est-ce que vous pensez que les gens sont perturbés par leur pouvoir d'achat et se disent que, justement, avec l'ordinateur, ils pourraient peut-être dépenser moins?
Je pense effectivement qu'avec le pouvoir d'achat aujourd'hui qui baisse, la question effectivement du coût de l'ordinateur est une question centrale. Et aujourd'hui, l'enjeu effectivement, au-delà même d'ailleurs du logiciel libre, c'est quand on achète un ordinateur, je pense que les gens aimeraient savoir ce qu'ils payent exactement dans la partie matérielle, dans la partie logicielle. Et par exemple, se dire que les 50 ou 100 euros qu'ils dépensent pour la partie logicielle Windows, ils pourraient éventuellement effectivement s'en passer et prendre un logiciel libre téléchargeable, par exemple, gratuitement sur Internet.
On va en parler également avec Édouard Barrero. Bonjour, vous êtes le chargé de mission pour les nouvelles technologies à l'UFC Que Choisir. L'ordinateur, encore un produit de luxe pour certains Français, d'après vous?
Bonjour, oui, de toute façon, ça restera toujours un produit de luxe pour une frange de la population. Il est vrai que le logiciel libre, avec les netbooks, a ouvert une brèche et donne accès à l'informatique, je dirais, des gens un peu plus modestes, mais il y a encore un grand travail à faire. Puis il ne faut pas négliger aussi que un ordinateur qui coûterait moins cher, c'est aussi les grandes marques qui feraient des ordinateurs en masse, sans le navigateur et sans le système Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, si on avait Microsoft dans HP, il coûtera très cher parce que ça serait une petite série dans la grande production de HP.
Alors, sur la sellette, vous l'aurez compris, monsieur Microsoft ce matin, Marc Mossé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des affaires publiques de Microsoft, porte-parole de Microsoft France. Vous allez pouvoir vous exprimer dans la deuxième partie de l'émission, plutôt à partir de 10h30. Mais en un mot, vous vous sentez justement dans l'œil du cyclone en ce moment avec Bruxelles qui semble quand même... Bruxelles vous accuse de position dominante.
Écoutez, il y a une procédure qui effectivement est en cours. On a un certain délai pour y répondre. Mais les points qui ont été abordés à l'instant par Frédéric Couchet et Édouard Barrero sont un petit peu différents. Sur l'accès aux ordinateurs, on voit un phénomène qui s'ouvre effectivement, une liberté de choix, davantage de possibilités d'accéder à des ordinateurs en fonction des besoins, des usages que l'on veut. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des évolutions tout à fait intéressantes, y compris dans la baisse des coûts sur les ordinateurs. Et je pense que tout à l'heure, on va pouvoir un petit peu tendre le cou à des idées reçues, à certains fantasmes. On va peut-être pouvoir dire les choses comme elles se passent réellement. Et donc, je vous remercie de nous donner l'opportunité.
Eh bien, tout cela, ça sera après 10h30. Mais pour l'heure, vous l'aurez compris, nous allons revenir sur notre actualité. Ce week-end, faut-il le rappeler, 10 000 personnes étaient mobilisées pour régler tous les incidents dus à la tempête. Plus d'1,5 million de foyers privés d'électricité. Je crois d'ailleurs que certains d'entre vous, je crois que c'est vous, monsieur Mossé, monsieur Microsoft, comme je vous appelle, vous aviez de la famille, non, en Dordogne?
J'ai ma maman qui est restée 24 heures sans électricité, sans chauffage, et puis des amis dans les Landes. J'espère que ça va se passer mieux dans les heures qui viennent.
C'est un peu le suspense. On se demande justement si tout va revenir à la normale dans une semaine, dans 15 jours ou 3 semaines. On a bien entendu la demande exprimée très fortement par le chef de l'État. On va en parler avec nos auditeurs au 01 45 24 7000. Vous êtes quelques-uns déjà à nous adresser des petits emails, des courriels et des messages par téléphone. Mais prenons peut-être tout de suite en ligne Jean-François Lecoy, qui est le délégué général de la Fédération des Assurances. Bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'en ce moment même, votre président Bernard Spitz est en train de discuter avec le gouvernement. Et j'imagine que les discussions doivent être intéressantes, puisque je voyais qu'Eric Woerth, il y a quelques heures, déclarait « Les premiers payeurs seront les assureurs ». Donc vous allez devoir payer avant l'État, c'est cela ?
Alors écoutez, oui, bien sûr. Vous savez que tous les contrats d'assurance multirisque habitation comportent obligatoirement une garantie tempête qui a pour objet de couvrir les dommages qui sont causés par les effets du vent. Donc c'est bien sûr très largement les dommages qui ont été causés par la tempête ce week-end. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait une déclaration d'état de catastrophe naturelle.
Comme il en a été question avec Madame Alliot-Marie. Donc ce qu'on pourrait peut-être dire dans un premier temps à nos auditeurs pour les rassurer, c'est pas besoin d'avoir un contrat d'assurance particulier et pas besoin non plus de cette déclaration de catastrophe naturelle. On peut être remboursé avec son contrat multirisque.
Exactement. Dès lors que vous avez un contrat multirisque habitation, et c'est le cas de 95% des foyers en France, vous avez obligatoirement une garantie tempête qui couvre donc les dommages causés par les effets du vent. Et il n'y a pas besoin que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour être indemnisé.
Et allez-vous faire un effort, vous, les assureurs, pour faire en sorte que les personnes soient remboursées au plus vite?
Oui, là, je crois que... Il y a une mobilisation tout à fait exemplaire des assureurs, des agents d'assurance, des courtiers d'assurance. de façon à ce que tout soit mis en œuvre pour conseiller nos clients, les renseigner sur les démarches à suivre pour déclarer leur sinistre, recevoir leurs appels. Il y a des plateformes téléphoniques, des cellules de crise qui ont été mises en place dans toutes les compagnies d'assurance pour enregistrer les déclarations de sinistre, établir les premières évaluations des dégâts, et tout est mis en œuvre pour accélérer autant que faire se peut la procédure d'indemnisation et de réparation.
Vous pourriez nous donner un ordre d'idée, remboursement dans une semaine, 15 jours? Ou est-ce qu'il faudra compter un petit peu plus?
Vous savez, alors ça dépend un peu ensuite des dégâts et des sinistres dont il est question. Bien évidemment, si c'est juste un bris de glace, ça peut aller très vite. Si on a des dommages beaucoup plus conséquents au bâtiment, il faut d'abord que les dommages soient réparés. Donc là, ça peut prendre un petit peu plus de temps, et ça va dépendre également de la capacité des professionnels du bâtiment à faire face à une demande qui est très importante. En tout état de cause, les assureurs s'attacheront à avoir les procédures d'indemnisation les plus rapides possibles. On fera des avances à chaque fois que nécessaire, et bien évidemment, dès que les réparations seront effectuées, l'indemnisation sera totale.
Deux questions encore que j'avais envie de vous poser. Que faire quand on n'a absolument pas de contrat d'assurance? Et puis, puisque vous parlez de solidarité et de gestes de votre part, de la part des assureurs, j'ai vu qu'une compagnie avait promis de ne pas appliquer de franchise à ses clients particuliers. Est-ce que d'autres compagnies vont agir de la sorte? Il s'agit de Groupama Centre-Atlantique.
Oui. Donc effectivement, Groupama a fait cette annonce. Des annonces de ce type-là relèvent ensuite de la politique commerciale de chacune des compagnies. Je sais que beaucoup d'elles réfléchissent au sujet dès aujourd'hui. Mmh. Il n'y a, à mon sens, pas d'autres compagnies qui aient fait cette annonce à ce stade, mais il y en aura très probablement d'autres dans les jours qui viennent.
Et que faire quand
on n'a pas de contrat d'assurance, je vous ai dit, c'est très rare, hein, puisque 95% des foyers ont une multi-risque habitation. Les cas qui ne seraient pas couverts par un contrat, mais écoutez, je crois que c'est une affaire de solidarité nationale, là. Ça n'est pas celle des assureurs.
Une dernière chose, peut-être encore, le premier geste, hein, tout naturellement, qu'on a envie de faire, c'est d'aller réparer sa voiture, donner un coup de main à sa toiture soi-même, etc. Est-ce que c'est un geste que vous déconseillez?
Non, au contraire, je crois que c'est important de prendre toutes les mesures qui permettent d'éviter un surcroît de dégradation des biens, hein. Donc s'il y a des choses à bâcher, il faut le faire, s'il y a des vitres cassées à obturer, il faut le faire. Ce que l'on recommande en revanche, c'est, si possible avant de procéder à ces travaux, de prendre des photos des dommages qui ont été subis, de commencer à réunir les devis et les factures concernant les biens endommagés, ce qui permettra de faciliter la procédure d'indemnisation.
Merci à vous, Jean-François Lecoix.
Je
rappelle que vous exprimiez au nom de la Fédération des assureurs.
Voilà.
Merci à vous.
Au revoir, merci.
Nous avions également envie dans cette émission de donner un vrai coup de chapeau à nos confrères des stations locales de France Bleu. Ce week-end, 7 des 41 stations locales du réseau public France Bleu ont décidé de bousculer leur programme et de se mettre au service des Français. Avec nous pour en parler, Nelly Asséna, vous êtes journaliste à France Bleu Gascogne. Je rappelle que France Bleu Gascogne couvre presque toutes les Landes, hein, au moins jusqu'à Mont-de-Marsan. Bonjour Nelly, vous êtes avec nous?
Bonjour à tous. Oui, on couvre toutes les Landes et même un petit peu au-delà, Pays Basque et Gers.
Vous avez vécu, je crois, un week-end de solidarité, d'entraide. France Bleu a joué un vrai rôle et vous continuez ce matin. Je voyais que...
On continue, oui.
Et voilà, je vous entendais, hein, j'ai écouté un petit peu l'antenne ce matin. Juste de 9h à 10h, un assureur a répondu à toutes les questions des auditeurs. De 10h à 11h, vous mettez en place donc une personne qui peut répondre à toutes les questions concernant l'électricité. Et de 11h à midi, ça sera les télécoms. C'est une manière d'assurer pour vous un vrai service public?
C'est un vrai service public, c'est évident. En fait, nous avons antenne ouverte depuis samedi 5h45 du matin. Mmh. Alors, ça avait commencé avec tous les auditeurs qui appelaient avec des appels à l'aide. On a eu des gens qui aussi proposaient leur service. Ça peut être du groupe électrogène pour aider une personne malade. Ça peut être quelqu'un qui propose le gîte et le couvert parce que lui, il a l'électricité, alors que le village d'à côté ne l'a pas. Donc, pendant deux jours, nous avons eu des appels comme ça. Alors, des centaines, des milliers d'appels au standard. On a des standards qui sonnent. Tous les standards sont réquisitionnés chez nous. Donc, c'était l'antenne ouverte comme ça pendant deux jours. Ce matin, on a un tout petit peu plus organisé parce qu'effectivement, maintenant, se posent un petit peu plus les questions matérielles. Donc, vous l'avez dit, hein, assurance. Là, en ce moment, c'est EDF qui répond aux questions sur notre antenne. Ensuite, France Télécom.
Mais ils peuvent vraiment répondre à des questions précises. J'entendais effectivement ce matin des questions très particulière et très précise. Chacun y va de son cas particulier. Vous pouvez vraiment répondre aux auditeurs?
Oui, les gens sont là. Les personnes d'EDF, par exemple, ou de France Télécom qui sont là, ce sont des personnes du coin, de la région, qui ont vraiment l'habitude de répondre à ce genre de questions, qui ont d'habitude les gens au téléphone et qui préfèrent passer par chez nous. Ça leur économise des centaines d'appels dans leurs agences. Et ils ont des réponses particulières. Ils peuvent dire, attendez, à cet endroit-là, l'équipe, elle viendra, mais que dans une heure, que dans deux heures. Ce secteur, on le couvrira cet après-midi. Mmh. Et donc, effectivement, ça répond vraiment aux gens et donc c'est important.
Tout le monde a redécouvert l'utilité des piles, hein, d'ailleurs, pour son poste de radio pendant ce week-end. Nelly, vous avez un souvenir, peut-être, qui vous reste en mémoire, un souvenir, que vous auriez vécu pendant le week-end. J'entendais ce matin tôt un journaliste sur l'antenne de France Bleu Gascogne qui avait l'air tout ému et puis qui disait, oh là là, c'est vraiment dans ce moment-là qu'on sait pourquoi on fait de la radio. Vous-même, un souvenir vous revient en mémoire ou pas ce matin?
Oui, mais ce serait même un souvenir personnel, hein, si je peux permettre, parce qu'on est certains nous-mêmes à être sinistrés, hein, dans notre radio. Moi, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de chauffage, mais j'ai des voisins qui sont montés sur le toit, qui changent des tuiles. Alors que c'est dangereux quand même, hein. Votre assureur disait qu'il faut le faire. Attention, il pleut, hein. Donc ça glisse et c'est assez dangereux. Mais c'est ça. Et la radio, les gens sont tous collés à leur poste, devant leur cheminée pour ceux qui en ont. Ils sont à plusieurs voisins derrière ça. Et de ça, c'est vraiment magnifique.
Oui. Autre chose aussi, un autre exemple. J'entendais qu'une boulangerie bordelaise se proposait d'offrir du pain gratuitement à des personnes qui peut-être en auraient besoin ce matin. Et donc vous servez de relais en quelque sorte.
On sert de relais. Alors, il y a le pain de cette boulangerie, mais chez nous il y a des supermarchés qui offrent l'eau. Par exemple dans la commune de Saint-Sevé, on a entendu des supermarchés qui donnent l'eau parce qu'ils étaient en rupture de stock hier. Ils donnent des bouteilles d'eau par exemple et des choses comme ça effectivement qui continuent. Tout le monde a sa petite initiative. Et si je peux me permettre, pour tous les gens qui ont des gens dans la région landaise et qui se posent des questions, nous on est antenne ouverte et bien sûr on nous capte que dans les Landes, mais il y a internet, hein, évidemment, bleugascogne.com.
Eh bien écoutez, vous me l'ôtez de la bouche Nelly, j'allais proposer aux auditeurs de France Inter qui s'intéresseraient justement à toutes ces questions, de se rendre sur votre site internet, hein, sur le site internet de France Bleu et notamment de France Bleu Gascogne. Vous répondez donc aux questions des auditeurs, antenne ouverte, solidarité et entraide. Merci beaucoup Nelly de nous avoir fait partager votre enthousiasme en tout cas.
Merci à vous.
Merci à vous et bravo à vos équipes. Je vous précise également que le téléphone sonne reviendra sur toutes les conséquences de la tempête et au standard de service public, vous réagissez. Je vois par exemple l'opinion de Marc. C'est l'opinion de Marc. Nous devons nous interroger sur les causes du dérèglement climatique, nous dit-il, avant de penser aux assurances. Voilà, c'est son opinion. 01 45 24 7000. On va enchaîner avec un tout autre sujet. L'ordinateur. N'est-il pas un produit de luxe pour certains? Peut-on réfléchir au logiciel libre? Est-ce possible avec la position dominante de Microsoft? On en parle dans un instant. Pour l'instant, Georges Brassens.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elle fasse l'amour, bien que toute la vie, elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Service public, prenez la parole.
Réagissez au 01 45 24 7000.
François de Lyon vient de nous envoyer le courriel suivant. J'ai voulu acheter un nouvel ordinateur. Je n'ai trouvé personne pour me vendre un ordinateur sans système d'exploitation. C'était obligatoirement Microsoft Vista. Comment faire ? J'ai l'impression que François est dans le vif de notre sujet ce matin. Je vous rappelle qu'avec mes invités, Frédéric Couchet pour l'association April qui milite pour les logiciels libres, Marc Mossé, le porte-parole de Microsoft France, et Edouard Barrero pour l'UFC Que Choisir, nous parlons de la possibilité, oui ou non, d'utiliser des logiciels libres. Première chose, peut-être avec vous, Marc Mossé, pour Microsoft, quand je parlais en début d'émission de cette position dominante, est-ce que vous la contestez ? Je rappelle quand même que vous avez été condamné à verser plusieurs milliers d'euros d'amende il y a un an, deux ans ?
Millions.
Oui. Millions, pardon. C'était combien ? 300 000 ? 300 millions ?
50 millions, je crois.
50 millions ?
Un petit peu plus. Mais c'est sur un sujet complètement différent de celui qu'on aborde aujourd'hui, parce qu'il s'agissait de relations entre entreprises, et c'était effectivement un cas qui avait été ouvert par des concurrents, des entreprises américaines. Mais pour revenir à la question que je comprends de votre auditeur, je crois que le bon prisme pour voir la question, c'est l'intérêt du consommateur. Et c'est vraiment
c'est ce qui nous intéresse
la problématique sur laquelle on doit se pencher. Aujourd'hui, il y a une liberté de choix. Elle se structure.
Elle existe vraiment, d'après vous ?
Elle existe. On trouve, et c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Frédéric Couchet, on trouve des ordinateurs plus petits, notamment pour chatter sur Internet, qui sont sous logiciel libre, et on a vu se structurer une offre. Ce qui est important, c'est que le consommateur, confronté à un produit de haute technologie, parce que personne ne conteste, c'est de la haute technologie, puisse avoir un produit simple, un produit stable et un produit sécurisé. Et je pense que quand on parlera d'accessibilité tout à l'heure, on évoquera aussi la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder aux technologies d'information.
Je reçois déjà des mails dans ce sens.
Parce que l'accessibilité, c'est pas simplement une question de prix, c'est aussi une question d'usage. Et quand on parle de fracture numérique, de déploiement des technologies d'information, il y a deux questions qu'il faut traiter, qui sont aussi importantes l'une que l'autre, qui est l'accès au matériel, et qui conduit à la question du prix et à la question de la simplicité, et la question des usages, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément toutes les facilités. Alors, sur la question de la simplicité, ce qui a été relevé par tout le monde, y compris dans le cadre d'actions judiciaires qui ont été engagées ici ou là par tel ou tel, c'est que l'ordinateur préinstallé, quel que soit le système d'exploitation qui est préinstallé, l'est dans l'intérêt du consommateur. Dans l'intérêt du consommateur, parce que c'est très simple, si vous n'avez pas de système d'exploitation, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. C'est un petit peu comme son moteur, ou si vous préférez, comme les pneus d'une voiture. Vous avez une voiture, en général, il y a différentes marques de pneus qu'on peut trouver chez un concessionnaire, sauf que quand vous achetez la voiture, pour sortir de la concession, en général, il y a des pneus. Ça ne vous empêche pas de les changer si vous en voulez d'autres. C'est vraiment l'idée d'avoir un produit manufacturé, un produit complet, et qui encore une fois est un produit complexe. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement l'installation du système d'exploitation qui est au cœur de l'histoire, c'est le paramétrage du système d'exploitation avec tous les logiciels, tous les périphériques qui existent autour.
Dites-moi juste si vous pensez que l'expression vente liée est exagérée, d'après vous.
Écoutez,
on achète un ordinateur et on est quasiment obligé d'acheter votre logiciel en même temps.
D'abord, deux choses. La première, j'avais entendu ça lors d'une émission précédente, il est souvent dit qu'il y a une exclusivité. Moi, je voudrais tordre le cou à ce qui est une inexactitude, pardon, une contre-vérité. Il n'y a aucune exclusivité, aucune clause d'exclusivité dans nos contrats avec les fabricants.
Bien sûr, dans les mails, c'est ce qui nous revient, c'est ce que nous disent les consommateurs.
Tout à fait. Et ils sont libres d'installer les systèmes d'exploitation qu'ils veulent. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs des fabricants qui installent d'autres systèmes d'exploitation. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une demande de la part du public qui se structure différemment. Et d'autre part, il y a des produits qui n'étaient pas matures, qui n'étaient pas prêts et qui n'étaient pas simples il y a quelques années, et qui petit à petit le deviennent. Et on voit les fabricants d'ordinateurs qui ne sont pas des philanthropes.
J'aimerais avoir l'avis d'Edouard Barrero pour l'UFC Que Choisir. Marc Mossé, on a entendu votre point de vue, votre ligne de défense. Pour vous, pas de ventilier. Edouard Barrero, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Et puis une information aussi pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent aussi le paysage dans lequel nous sommes. Depuis un an ou deux, les gens achètent beaucoup moins de logiciels de Microsoft. Je crois que vous aviez une position effectivement qui était à 90%. C'était le logiciel le plus acheté au monde. C'est ça, je me trompe pas. Et aujourd'hui, en France, on n'en est plus qu'à 70%. Les gens s'intéressent de plus en plus aux logiciels libres. Pour quelles raisons?
Alors, avant, quand même, je vais corriger quelque chose de ce qu'a dit M. Mossé, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que vous dites, on a le choix de Linux, mais il ne faut pas oublier que les ordinateurs qui sont aujourd'hui équipés de logiciels libres, ce sont un segment de marché très défini, qui sont des ordinateurs d'entrée de gamme. Les ordinateurs qui composent le plus gros du marché, c'est-à-dire ordinateurs de 15 pouces, ordinateurs pour faire du multimédia, sont toujours liés à Microsoft. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions très intéressantes avec la grande distribution qui me disait, effectivement, on a un gros point avec Vista, c'est que les gens ne l'aiment pas ce système. Il y en a même d'ailleurs beaucoup qui demandent à passer à XP.
Il marche pas bien.
Et on ne veut pas. Mmh. Et quand même, je veux quand même dire qu'aux États-Unis, il y a un nouveau mot dans le dictionnaire.
Je peux donner juste une étude qui n'est pas une étude de Médiamétrie, un institut bien connu, de juin 2008, où le taux de satisfaction d'adoption de Vista était de 80%. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le taux d'adoption de Vista par rapport à XP, même s'il a été plus long au démarrage, aujourd'hui est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide.
Mais grâce à l'avant-pied, vous le savez bien. Il y a quand même un nouveau mot dans le dictionnaire américain pour dire accès industriel, c'est Vistaster. Le logiciel, quand il est sorti, était tellement mauvais, il a tellement rebuté les consommateurs, qu'il a eu une très très mauvaise presse. Et on a eu beaucoup de demandes de consommateurs qui voulaient changer de système, et même pas pour aller au libre, pour aller à XP tellement ils n'aimaient pas Vista.
Parce qu'il y a plein de problèmes de périphériques,
de systèmes, et le système aujourd'hui est de meilleure qualité, parce que vous avez corrigé quelques défauts, certes, mais vous avez quand même réussi à vendre un logiciel que le consommateur n'aimait pas, ne trouvait pas de bonne qualité grâce à la ventilier. Alors je tiens bien à insister qu'aujourd'hui, sur le segment de marché du grand public, on n'a toujours pas le choix.
Donc, vous l'affirmez, il s'agit vraiment de ventilier.
C'est la raison pour laquelle Bruxelles... Nous sommes toujours en procédure sur ce sujet-là et on ne lâchera pas, c'est la ventilier. Tant que le consommateur n'aura pas le choix sur son système pour un ordinateur grand public, ce sera de la ventilier.
Juste un point, parce qu'on ne va pas rentrer dans un débat juridique sans fin, puisqu'effectivement, Edouard Barrero précisait qu'il y avait...
C'est pas du tout un débat juridique. Je me mets à la place du consommateur qui se rend effectivement dans une grande surface, qui désire acheter un ordinateur, qui n'a pas forcément de gros moyens, il veut acheter un ordinateur moyenne gamme. Effectivement, il se sent obligé d'acheter votre logiciel qui coûte, on va le rappeler, vous l'avez dit, entre 50 et 100 euros. On peut parler quand même de ventilier.
Alors, encore une fois, moi je ne veux pas trancher des questions qui sont posées par UFC Que Choisir à la justice dans les procédures où nous ne sommes pas impliqués. C'est important de le préciser. Ce que je retiens, c'est qu'un certain nombre de juges, y compris la Cour de cassation, ont dit très simplement que l'ordinateur préinstallé, parce que c'est un produit complexe, l'était dans l'intérêt du consommateur. Préinstallé, après, encore une fois, les fabricants ont la liberté de choix d'installer le système qu'ils veulent, puisqu'il n'y a aucune exclusivité. Et les juges l'ont dit, encore une fois, le dernier, c'est novembre 2010, c'est Tarascon, juge Tarascon, qui dit, c'est un produit complet, qui est un produit complexe, et qui est vendu avec un certain nombre d'éléments paramétrés, parce que c'est l'intérêt du consommateur en termes de simplicité, en termes de facilité d'accès, et on y reviendra j'espère tout à l'heure, en termes d'usage, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Quand on dit système d'exploitation, on a dit beaucoup de choses et on n'a rien dit. On n'a rien dit de la sécurité, on n'a rien dit de la stabilité, on n'a rien dit de l'accessibilité et on n'a rien dit de la protection de la vie privée.
Les internautes, je vais les laisser s'exprimer, ont tendance à dire que justement la sécurité est meilleure sur les logiciels libres parce que tous les bénévoles peuvent corriger en temps réel les défauts d'un logiciel. Frédéric Couchet, je vais vous laisser parce que moi je suis pas forcément une experte en la question, mais qu'en pensez-vous?
Alors, je vais répondre sur la sécurité, mais je vais quand même revenir sur ce que venait de dire Marc Mossé. Sur la sécurité, effectivement, tous les experts sécurité considèrent que la sécurité par la transparence, c'est-à-dire l'accès au code source, est meilleure que la sécurité, effectivement, par l'obscurantisme, c'est-à-dire la boîte noire dans laquelle on fait confiance. Mais par rapport à ce que vient de dire Marc Mossé, deux choses. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est vrai que les gens ont envie d'avoir des logiciels préinstallés. Il y a une étude du CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie, qui dit que les gens qui vont acheter un ordinateur cette année, à 63%, veulent avoir le choix de leur ordinateur. Et à 12%, veulent un ordinateur nu. Donc la majorité, effectivement, veut avoir le choix d'un système préinstallé, mais aujourd'hui, concrètement, ils n'ont pas ce choix-là. Nous, ce qu'on demande, c'est très simple, en fait, c'est que effectivement, il peut y avoir des logiciels qui soient préinstallés, mais pas préactivés. Et que c'est au choix ensuite du consommateur de dire, moi je veux préactiver par exemple ou activer par exemple Microsoft Windows, mais par exemple je ne veux pas activer Microsoft Office parce que je vais installer
équivalent logiciel libre OpenOffice, ou par contre je ne veux pas préactiver ou activer Microsoft Windows parce que je veux activer plutôt le système logiciel libre qui sera installé. Donc ce qu'on demande en fait, c'est que les conditions d'usage des licences, les prix des différents éléments soient affichés et qu'au final on ait l'optionnalité. Et moi j'ai une question simple à poser à Marc Mossé. Nous on a vécu un cas la semaine dernière, ma collègue donc justement Alix Cazenave, son ordinateur a rendu l'âme immédiatement. En urgence, on a dû acheter un ordinateur. Elle a été dans un magasin. Elle a fait plusieurs magasins. Impossible d'avoir un ordinateur sans système d'exploitation préinstallé. Impossible d'avoir un remboursement. Donc finalement, elle a acheté un Toshiba. Elle a appelé le support technique de Toshiba pour savoir quelle est la procédure de remboursement. Et Toshiba demandait le renvoi à ses frais de l'ordinateur. C'est-à-dire de renvoyer l'ordinateur pour faire une désinstallation de Microsoft Windows. Alors moi j'ai simplement deux questions à Marc Mossé. Est-ce que Marc Mossé est d'accord sur le fait de mettre en place l'optionnalité? Et deuxième question, que propose Marc Mossé aux constructeurs et aux distributeurs pour faciliter cette mise en place de l'optionnalité et notamment faciliter les procédures soit de remboursement, soit effectivement l'optionnalité en magasin? Aujourd'hui, concrètement, ce que nous disent les distributeurs et les constructeurs, c'est que les accords qui sont totalement fermés avec Microsoft, dans lesquels on n'a aucune information, les empêchent de mettre en place des procédures réellement non contraignantes pour le consommateur.
Alors, la réponse de Microsoft.
La réponse de Marc Mossé, c'est que, encore une fois, je risque de me répéter, mais il n'y a pas d'exclusivité dans les accords. Bon, il faut le dire et le redire. Ce sont des contrats d'ailleurs qui sont...
Dans les accords, oui, mais vous le voyez dans la vie quotidienne.
Alors, dans la vie quotidienne, moi je vais dire les choses très simplement. Il y a plus d'un an et demi de ça, on s'était vu au siège du FC Que Choisir, boulevard Voltaire, avec Édouard Barrero et à l'époque Julien Dournion. J'avais fait une proposition qui était de dire, ce qui est clé dans cette question-là, c'est l'information du consommateur et la transparence sur les produits et les procédures qui existent. Et j'ai dit, essayons de travailler ensemble pour voir comment on peut, alors, est-ce que c'est des petites affichettes, des petits livrets, pour donner de l'information et de la transparence aux consommateurs. Je crois qu'il y a un certain nombre de distributeurs, je ne veux pas donner de nom ici, qui affichent les procédures si on veut obtenir le remboursement. Donc moi j'ai aucun souci là-dessus en termes d'information et de transparence du consommateur dans le point de vente avant qu'il n'achète son ordinateur pour qu'il soit effectivement renseigné. J'observe juste une chose qui est liée à des contrats de licence, ça, qui sont encore une fois des contrats mondiaux, pas des contrats pour la France, et qui font que les procédures de retour de produits sont les politiques des constructeurs, ce ne sont pas les politiques de Microsoft. Ils peuvent faire le choix soit de rembourser le système d'exploitation si le consommateur revient avec, soit l'entière machine, et ça va dépendre à chaque fois de chaque constructeur. Mais moi, je dis les choses très simplement, si on doit travailler ensemble pour plus d'informations dans le point de vente, pour plus de transparence sur quelles sont les conditions, donner nos conditions de licence avant que les gens ne l'achètent. Moi, je suis tout à fait prêt, je l'ai dit il y a un an et demi, donc je ne vais pas changer d'avis, pour qu'on le fasse, dans cet esprit-là, encore une fois, pour qu'il y ait une liberté de choix, encore une fois, dans l'intérêt du consommateur.
Un mot rapidement.
Rapidement, à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la solution qui soit la meilleure pour le consommateur, qui n'est pas celle du remboursement, qui essaye de payer en caisse ce qu'il a vraiment acheté, ce qu'il va vraiment utiliser, donc possibilité de refuser le contrat de licence d'utilisateur de Microsoft en magasin, et de, en caisse, payer uniquement ce qu'il va utiliser, partie logiciel et partie ordinateur. Qu'est-ce que concrètement vous proposez pour que les distributeurs mettent ça en place?
Moi, je ne proposerai rien. Pour une raison encore très simple, c'est que le PC, l'ordinateur, ça peut être d'ailleurs, on connaît une firme à la pomme qui est dans la même situation, hein, qui vend des systèmes totalement propriétaires.
Pas exactement le même cas. C'est pas exactement le même cas.
Ah bon, donc je préciserai après. Je trouve que c'est quand même tout à fait le même cas parce que tout le monde est dans la même situation.
Non, c'est pas le même cas.
Le point est très simple. Ce sont des politiques de fabricants. Des politiques de fabricants. Nous, on vend les licences au niveau mondial, en gros, hein, c'est comme une vente en gros, à un prix de gros, un prix de volume, et après, ils l'installent, ils le paramètrent avec les périphériques. Est-ce que vous savez que pour un constructeur, mais j'allais dire, ce serait plutôt à eux d'en parler, et sur ces questions-là, c'est à eux d'y répondre, mais est-ce que vous savez que pour un constructeur, ce qui coûte le plus cher, c'est pas tant d'installer le système d'exploitation en lui-même, mais tous les tests, une fois qu'il est installé, y compris avec les périphériques, et il faut savoir également qu'en moyenne, sur un ordinateur, il y a 35 logiciels préinstallés qui ne sont pas des logiciels Microsoft. Multimédia, sécurité, contrôle parental, tout un ensemble d'outils qui sont paramétrés avec le système d'exploitation. Et ça serait la même question avec un autre système d'exploitation. Donc, moi, je dis une chose très simple. On a parlé de pouvoir d'achat au début. C'est quoi l'histoire de l'informatique? C'est de rendre plus simple un produit compliqué en l'industrialisant, donc en faisant baisser le coût d'accès. Si vous le rendez plus compliqué, non seulement vous avez une problématique sur la simplicité,
Mais vous avez une problématique de coût, parce que personne n'est dupe.
Mais je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à la question, Frédéric Fouché. Mais
j'ai l'habitude
d'avoir marmossé. On sent bien qu'il y a une intention générale, mais concrètement, quand on arrive à la caisse, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur? Moi, je voudrais continuer un petit peu dans l'éclairage qu'on donne ce matin aux auditeurs de France Inter, parce que vous avez, Frédéric, utilisé un certain nombre de mots un peu techniques, alors je ne voudrais pas non plus que nos auditeurs soient perdus. Édouard Barrero, puisque vous travaillez pour l'UFC Que Choisir, pouvez-vous nous redonner quand même en deux, trois mots les clés du problème quand on achète un ordinateur avec, quand on veut avoir accès à Internet avec Internet Explorer, par exemple, quelle est la différence de prix entre cet ordinateur-là avec le système dont nous parlons, Microsoft, et quand on achète un ordinateur nu, comme l'a dit Frédéric Couchet, quelle est la différence de prix?
Alors en fait, il y a un gros problème, c'est parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un problème d'échelle de production. Donc si aujourd'hui vous essayez de trouver un ordinateur nu sans Microsoft, il sera plus cher qu'un ordinateur avec Microsoft. Pourquoi? Parce que ces lignes de production sont très restreintes, il n'y a pas d'économie d'échelle. Tout le problème est là, c'est-à-dire qu'il faudrait que les producteurs comme Hewlett-Packard, Siemens, etc., et des lignes de production complètes de logiciels libres pour que ce soit moins cher. C'est ça le souci. Sur les petits ordinateurs netbook, on voit des différences de prix sont énormes parce que justement, ils ont fait des grandes chaînes de prix. Et là, ça joue à 150€, 200€, voire plus. Parce que, outre le fait que le logiciel libre est gratuit, les ordinateurs qui travaillent sous Windows ont besoin de beaucoup plus de puissance. Donc, ça coûte cher de mettre un ordinateur Windows, qu'il faut mettre un ordinateur plus puissant. C'est pour ça que, par exemple, sur les gammes Asus, vous voyez que l'ordinateur Windows est systématiquement plus gonflé en termes de processeur de RAM. Le consommateur croit qu'il achète un ordinateur plus puissant, mais en fait, il rend le même service que l'autre parce qu'il faut beaucoup plus de ressources matérielles pour qu'il fonctionne bien.
C'est très précis ce que vous nous dites. Beaucoup d'auditeurs ont envie d'aborder la question des Macintosh. On va le faire, la fameuse marque à la pomme dont vous parliez. On va le faire dans un petit instant. Moi, je vous propose de faire une petite pause en écoutant le reportage d'Antoine Lee. Est-ce que vous connaissez les install parties? J'imagine que mes invités, bien sûr, les connaissent, ces install parties. C'est nouveau, mais ça...
On y va ensemble.
Oh, si, c'est assez récent. Vous y allez? Ah bon?
Je vous invite à la prochaine, effectivement.
Avec plaisir.
Les install parties, sachez, connaissent un succès grandissant. Ce sont des réunions qui permettent d'installer justement ces logiciels libres. On peut en trouver un peu partout en France. Il y a deux rendez-vous, je crois, annuels qui se tiennent à Paris, à la Villette. C'est une manière, justement, d'initier les néophytes. Alors, c'est l'occasion également de récupérer gratuitement les dernières versions des logiciels libres. Antoine Lee a suivi Olivier, Emmanuel, Frédéric au cours d'une de ces réunions.
Donc, je le sélectionne. Je ferme. Et maintenant, c'est celui-là qui sera... sélectionner.
D'accord.
Quand tu cliques ici,
Oui. Tu
peux hiberner, redémarrer, éteindre.
On va pouvoir passer à ce monsieur une clé USB qui contient des logiciels libres et qu'il va pouvoir recopier sur son ordinateur pour pouvoir les installer.
Et comment se déroulent les réunions de découverte?
En fait, c'est une réunion pour pouvoir expliquer ce qu'est GNU Linux à des personnes qui ne connaissent pas. Et pouvoir aider des personnes qui veulent justement l'avoir installé sur leur ordinateur mais qui ne sont pas qui n'ont pas envie de mettre les mains dans la machine quoi.
Et c'est payant, c'est gratuit?
Non, c'est totalement gratuit, c'est juste des bénévoles, on s'aide, on s'entraide, on discute et non, c'est totalement ouvert et gratuit.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir accès au logiciel libre hein? Parce qu'on se dit oh là là, il faut être informaticien, faut faire des études d'informatique.
Pas du tout, c'est très simple. Aujourd'hui dans toutes les régions de France, il y a des groupes d'utilisateurs de Linux et de logiciels libres. Ces gens-là ne demandent qu'à vous aider, ne demandent qu'à vous expliquer les choses, à vous donner à la rigueur s'il y a un petit manque de vocabulaire, à vous expliquer ce qui peut vous manquer. Et le but, c'est vraiment de faire de l'échange. Si quelqu'un n'arrive d'ailleurs pas à trouver de groupe d'utilisateurs de Linux et de logiciels libres près de chez lui, Internet est là et lui permet de communiquer avec de nombreuses personnes par le biais de listes de diffusion de mails, par le biais de forums, par le biais de chats.
En fait, on a vraiment tous les types de personnes. On a des couples qui viennent, on a des familles qui viennent, on a des personnes âgées parce que elles se disent tiens, je suis à la retraite et j'ai besoin d'avoir un ordinateur pour discuter avec mon petit-fils qui est en Amérique ou à l'autre bout du monde. C'est vraiment fait pour monsieur et madame tout le monde, quoi.
Comme moi, je suis allée parce que je suis allée à un cours, c'est lui qui l'a donné à la Villette. Il y avait porte ouverte à la Villette deux jours. Eh bien, je suis partie de zéro à 61 ans. Je viens aux soirées Paris Nux. Et moi, je suis justement un peu une novice, là, comme dont il parle. Je m'informe. J'essaie de voler mes propres ailes.
Qu'est-ce qui vous motive tous, là?
En fait, quelque part, ça rejoint les idéaux de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'avec le logiciel libre, nous avons tous les mêmes droits, nous sommes tous égaux devant le logiciel libre. C'est l'occasion de nous retrouver entre gens, c'est donc la fraternité. Et nous sommes libres de faire ce que nous voulons de ces logiciels libres.
Et si participer à une install party vous intéresse, nous mettons en ligne sur le site de franceinter.com, sur le site de service public, tous les renseignements. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire part aussi de cette question de Chantal, désespérée, j'ai 70 ans, je pleure parfois devant mon ordinateur, c'est une expression hein, bien sûr. Où peut-on prendre des cours? Avez-vous un conseil à donner à cette auditrice hein, qui veut se perfectionner et en savoir plus sur le maniement de son ordinateur?
Mais il est vrai qu'avec la multiplication de l'informatique dans toutes les tous les types, toutes les classes d'âge de population, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées de services informatiques qui proposent 2-3 heures de cours. Et mais il faut bien comparer. Je sais que l'USC Choisir, le magazine Choisir a fait un comparatif justement de ces différents services parce qu'ils sont pas tous d'une très bonne qualité. Donc il faut vraiment faire attention à ça et au bouche à oreille aussi.
Bouche à oreille. Il y a des organismes privés également auxquels on peut s'adresser.
Il y a des organismes publics,
oui,
comme les espaces publics numériques, les EPN, espaces publics numériques, qui sont présents dans toutes les régions, qui sensibilisent à l'informatique. Et certains sensibilisent à la fois au logiciel propriétaire et au logiciel libre, comme par exemple à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où ils ont une cyberbase. Donc ça, c'est un endroit où on peut aller pour se former à l'informatique.
Question de nos auditeurs. Hervé à Lille nous dit, mais bonjour, pardon, mais rien n'est gratuit. Pardon, il nous dit bonjour tout d'abord, et ensuite il nous dit, mais rien n'est gratuit. Combien coûte exactement un logiciel libre? Réponse.
Mais pour le consommateur, zéro.
Zéro.
Il suffit juste de télécharger sur le net et de mettre son ordinateur. D'ailleurs, j'insiste sur le fait du paramétrage, de la difficulté. On avait fait faire des tests avec des huissiers, des experts auprès des tribunaux pour le prouver. Vous prenez un Ubuntu ou un Mandriva, vous le mettez dans votre ordinateur, vous démarrez l'ordinateur et il s'installe automatiquement et ça fonctionne.
Donc nos auditeurs ont du mal quand même à appréhender cette idée de gratuité. Mais j'aimerais insister quand même là-dessus. L'idée du logiciel libre, elle fonctionne beaucoup, comme on vient de l'entendre avec l'install party, elle fonctionne beaucoup avec ces notions d'entraide, de solidarité. Ça rejoint d'ailleurs notre premier thème. On parlait de la solidarité qui était en vigueur au moment de la tempête pendant le week-end. C'est un peu cet esprit-là. Quand je parlais des bénévoles qui essayent d'améliorer les logiciels, c'est un système quand même extraordinaire. Tout le monde peut mettre la main à la pâte et tout le monde peut améliorer le logiciel. C'est quand même un système fantastique. Et tout cela se fait gratuitement.
Alors, je vais revenir sur la gratuité. La base, effectivement, quand même, du logiciel libre, c'est le partage, c'est la coopération, quelque part sur le même modèle que la recherche scientifique, où finalement chacun produit des briques, et finalement on réutilise ces briques, et on rajoute juste ce dont on a besoin. Sur la gratuité, c'est vrai que la plupart des logiciels libres sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Mais vous avez des entreprises, comme par exemple une société française qui s'appelle Mandriva, qui vend dans les grandes distributions du logiciel libre, sa distribution Mandriva, avec un CD-ROM, un manuel, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe finalement comment on s'est procuré le logiciel libre, qu'on l'ait payé ou qu'on l'ait téléchargé gratuitement sur Internet. Ensuite, on a la liberté d'usage et de copie. Et ça, c'est fondamental, notamment tout à l'heure quand on parlait de la réduction de la fracture numérique, ou plutôt des fractures numériques. Dans les fractures numériques, il y en a quatre. Il y a l'accès, il y a l'ordinateur, accès à Internet, il y a l'ordinateur, il y a les usages, et il y a la production de contenu et d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est donc finalement les fractures numériques, c'est à la fois économique et culturel. Mmh. Sur l'aspect économique, le logiciel libre, sa réponse, c'est de dire, une fois que vous avez un exemplaire du logiciel libre, vous pouvez en faire des copies pour le passer à des amis ou pour l'installer dans votre entreprise, par exemple. Et d'un point de vue culturel, le logiciel libre vous permet de mieux apprendre parce qu'il vous permet de comprendre.
Nous avons une question de Caroline qui habite à Rouen.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, je vous écoute.
Alors, d'abord, j'avais une question pour le représentant de Microsoft.
Il est très à l'écoute.
Est-ce qu'il y a des petites rumeurs qui courent comme quoi Microsoft préfère payer des amendes pour que la FNAC puisse vendre un ordinateur avec Windows dessus directement, que le client n'ait pas le choix en fait entre Windows ou un logiciel libre?
Alors, réponse de Marc Mossé. Vous faites des pressions sur la FNAC?
C'est une rumeur totale. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de question avec la FNAC. Non, c'est une rumeur. Je ne sais pas où ça circule, sur des blogs, mais c'est une inexactitude.
Est-ce que c'est un cas précis ou est-ce que c'est une idée de dire que vous préférez avoir les amendes de la Commission européenne et continuer votre même système économique? Oui, c'est ça, je pense plutôt. Oui, parce que c'est rentable pour vous.
Non.
Le fait justement que Bruxelles s'intéresse à vous, là, très récemment, est-ce que vous pensez, voilà, comment ça va se terminer? Vous pensez que vous allez être condamné ou pas?
Ah ben, j'en sais rien, puisque c'est juste un début de procédure où on nous pose des questions auxquelles il faut répondre. Donc, on y répondra pour se conformer à la loi.
Explication sur le fond, c'est quand même très intéressant ce cas-là, parce que on n'en parle pas, mais Internet Explorer est livré de manière systématique avec Windows. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que bon, vous l'avez déjà sur ordinateur, que vous pouvez pas le désinstaller en plus. Et le deuxième point, c'est que Windows utilise le langage HTML standard, donc qui devrait communiquer avec tous les autres systèmes comme Mozilla Firefox ou Safari d'Apple. Mais le seul problème, c'est que Microsoft modifie le code HTML. si bien que lorsqu'une page Internet fonctionne bien avec Internet Explorer, elle ne fonctionne pas très bien avec les autres avec les autres systèmes. C'est d'ailleurs un des points de la plainte. Et ça, je peux le vérifier parce que j'ai moi-même fait un site pour micro avec une architecture Microsoft et ça ne marchait pas sur Firefox.
Je vais repasser la parole à Caroline. On lui a un petit peu coupé la parole. Caroline, vous avez posé toutes vos questions ou pas?
On
a répondu à vos questions.
Je ne sais pas si... Parce que c'est vrai que la Commission européenne, elle interdit normalement de forcer à acheter un logiciel. Et là, on n'a pas le choix quand on va dans certains magasins.
On revient effectivement toujours à ce problème.
Pardon, et juste parce qu'on entretient facilement la confusion entre différents sujets. Le sujet qui
c'est
fait
un peu toujours le même sujet. Moi, depuis tout à l'heure.
Oui, mais je vous apporte une réponse. Je vais vous apporter une réponse très précise. Non, parce que c'est pas les mêmes questions celles qui sont posées par la Commission dans le cadre de la procédure que vous avez évoquée et la question des ventes liées pour les ordinateurs. Parce que figurez-vous que la commissaire à la concurrence Nelly Kroes, le 27 novembre 2007, interrogée sur la question des ordinateurs préinstallés, a répondu officiellement au Parlement européen que cela n'était pas contraire au droit de la concurrence. Donc, sur ce sujet précis, vous voyez que ça n'est pas une question.
Mais il n'empêche que Bruxelles
remise.
Vous accuse à nouveau
sur un
de
autre
position
sujet,
dominante.
Sur un
on
autre
va essayer
sujet.
De progresser dans notre débat. Frédéric Couchet, je suis désolé, on va prendre le retour. Hein, il est 10h48. Nous allons prendre un auditeur de Carcassonne. Pierre, bonjour, je vous écoute.
Allô, bonjour. Je suis à la fois dans le sujet et pas dans le sujet. Je voulais juste préciser que pour acheter un ordinateur moins cher, on n'était pas obligé d'acheter un ordinateur de marque et on pouvait très bien s'adresser à un assembleur. Il y en a partout. Il suffit d'être conseillé chez un bon informaticien. Et là, dernièrement, il y a 15 jours, j'ai acheté un ordinateur 64 bits à 283 €. Et j'ai demandé à ne pas avoir de logiciel de système d'exploitation dessus. J'y ai installé à la fois Ubuntu d'une part et en parallèle un XP Pro de manière à pouvoir avoir les deux systèmes d'exploitation et je fais la différence. Quoi.
Merci de ce conseil Pierre. Pour être équipé moins cher, il faut donc être très malin et bien informé. Très rapidement Edouard Barrero, votre réaction.
Le souci c'est que les ordinateurs les plus vendus en France aujourd'hui sont les portables et lorsque vous voulez faire assembler un portable, ça coûte très 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 cher.
Nous avons également en ligne David Assouline qui est sénateur, auteur d'un rapport sur la question de la fracture numérique, mais pas seulement, sur également toutes ces questions liées à l'ordinateur et aux jeunes. Bonjour David Assouline, merci d'être avec nous et d'avoir patienté.
Oui, bonjour.
Bonjour. Dans votre rapport, vous auscultez effectivement très bien ce thème de la fracture numérique dont on a parlé ce matin. L'ordinateur accessible à tous, c'est une vraie question. Et puis vous faites un certain nombre de propositions. Alors je peux malheureusement pas toutes les détailler. Est-ce que vous voudriez nous dire quelle serait la proposition ou les deux, trois propositions qui seraient les plus rapidement applicables?
C'est avant tout un rapport sur l'impact des nouveaux médias sur la jeunesse.
Oui.
Et ça essaie de décrire le bouleversement des rapports de la jeunesse au divertissement, à l'information, à l'éducation, sans qu'il y ait une pensée de la société, des valeurs posées et des actions pour prendre en compte ce phénomène. Donc, on va dire que pour être positif, j'insiste avant tout sur les propositions en termes d'éducation et je propose qu'il y ait et en quatrième et en seconde des modules de 10 heures obligatoires d'initiation aux nouveaux médias et en particulier à Internet.
Mmh. Plus de pédagogie, hein. Vous pensez qu'il...
De l'éducation.
Il faut qu'on démocratise l'outil ordinateur, l'outil Internet également?
Oui, il faut le démocratiser et en même temps, le démocratiser, c'est aussi donner un sens, c'est-à-dire que c'est pas tout et n'importe quoi et il faut que les jeunes puissent et se prévenir des risques, parce qu'il y a des risques, ils sont aussi des proies, et aussi avoir cette distance critique, tout ce qu'ils font ou ce qu'il y a sur Internet, il faut qu'ils puissent le juger, il faut qu'ils puissent vraiment se saisir de cet outil pour
et
leur
garder un esprit critique, ouais.
Oui, que ça leur serve à une émancipation, que ça leur serve à démocratiser leur rapport à la culture, ce qui est déjà pas mal fait, parce que jamais ma génération n'aurait eu autant accès, par exemple, à la musique, même si ça pose des problèmes pour les droits d'auteur, etc. Il y a une ouverture d'esprit énorme et en même temps, on voit tous les risques avec une certaine perte de l'anonymat aussi dans un certain nombre de rapports. La France est championne du monde des blogs d'adolescents. Et les adolescents, très souvent, n'ont pas du tout conscience que ce qu'ils mettent là, qui est parfois assez intime, est visible par des millions de gens. Et donc, toutes ces choses-là, faut qu'ils le sachent et il faut que ce soit pris en compte dans l'éducation nationale.
Plus de pédagogie, hein, donc oui. C'est ce que vous recommandez. Juste une chose encore, puisque on utilise souvent l'expression Internet pour tous, il paraît même que c'est une priorité du chef de l'État. Comment vous réagissez à cela?
Ben, je réagis, c'est bien, et en même temps, parce qu'il y a une fracture numérique, comme vous le dites, qui est une fracture sociale et peut-être maintenant surtout territoriale. Ça nécessite des investissements énormes. Je crois que les États-Unis et notamment Barack Obama a donné le signal en cette période de crise, qui est de miser sur l'avenir. Là, il y a un secteur énorme. Et très souvent, là, une petite critique pour les fournisseurs d'accès, les télécoms, ils se reposent sur les collectivités territoriales. Il faudrait qu'ils les aident beaucoup plus à faire que tout le territoire puisse être vraiment couvert, qu'il y ait des actions vers les personnes isolées, vers les gens les plus fragiles, pour qu'ils puissent avoir cet outil qui est maintenant aussi impératif que le libre accès ou l'égalité des droits à une certaine époque pour le courrier, la poste, etc. Donc on ne peut plus vivre vraiment à égalité avec les autres si on n'a pas cet outil. Et il y a encore beaucoup d'endroits où on ne l'a pas. Mais il faut relativiser en même temps, parce que un des faits majeurs, c'est que 96% des jeunes de 10 à 17 ans surfent sur Internet.
Ils possèdent bien souvent Internet à la maison également. Hop. Juste une dernière question. Oui. Vous êtes sénateur au Sénat, vous êtes équipé avec Microsoft ou avec des logiciels libres?
Microsoft.
Ah ben voilà.
J'alterne.
Il faudrait peut-être que les pouvoirs publics donnent l'exemple alors. Merci beaucoup David Assouline.
Mais pas à la mairie de Paris. Oui. Logiciel libre.
Logiciel libre à la mairie de Paris. Merci David Assouline. Frédéric Couchet.
Alors déjà rappeler que les députés à l'Assemblée nationale utilisent du logiciel libre depuis maintenant un an.
Voilà, vous savez bien qu'il y avait une différence entre le Sénat et
je voulais réagir au propos du sénateur Assouline sur la formation des jeunes pour signaler que à la rentrée 2009, dans le module il va y avoir en seconde un module informatique et société numérique dans lequel vont être abordés un certain nombre de sujets, dont les sujets qu'a abordé David Assouline. Mais également, il est important dans ces sujets-là d'aborder au-delà des outils le fonctionnement de l'informatique, c'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'est un ordinateur, comment sont représentées les données sur ordinateur, comment fonctionnent les réseaux, pour leur permettre de vraiment appréhender complètement cette révolution numérique. Donc on espère que dans le programme de ce module de seconde, informatique et société numérique, il y aura effectivement une partie traitement de l'informatique en tant que telle, en tant que technique et en tant que science.
Mais justement, pas mal d'auditeurs se plaignent que dans l'éducation nationale, bien souvent, on soit équipé avec Microsoft. Hein, c'est ce que nous dit Michael, par exemple, un auditeur. Le pire avec Microsoft est sûrement, c'est l'auditeur qui s'exprime, le pire avec Microsoft est sûrement qu'une majorité d'établissements scolaires fonctionnent encore avec Windows et sa suite bureautique, et ils préparent ainsi les jeunes à consommer du Microsoft. Marc Mossé.
Non, moi, je voudrais rebondir, et ça me permet de répondre à cette question sur ce que disait le sénateur Assouline. Ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement l'éducation aux technologies de l'information. Et je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, ce serait peut-être l'occasion de le refaire plus tard, c'est que les technologies de l'information, on le disait, c'est l'accessibilité, c'est aussi la protection des données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont sur Internet et il y a une problématique de vie privée. Et là, il y a besoin d'éduquer les jeunes. Et je sais que Frédéric Couchet sera sensible à ce thème-là, puisque l'un des adhérents les plus influents sur l'association, c'est Google. Donc évidemment, à partir de là, la question de la protection de la vie privée est une question centrale.
C'est une autre question.
Non, c'est pas une autre question. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un ordinateur, le principal usage, aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, sur Internet, vos données, si vous n'y prenez pas garde, et s'il n'y a pas les garde-fous, elles sont utilisées par d'autres. Et on a vu plein d'exemples encore la semaine dernière, ce pauvre internaute qui a vu sa vie privée étalée dans les médias. Nous, on a pris un engagement. C'est très important parce que on touche du doigt ce qui est la future question autour des technologies d'information. On a pris un engagement qui est d'une part de réduire à 6 mois la durée de conservation des données, et d'autre part, d'anonymiser complètement ces données pour qu'on ne vous recherche pas et qu'on ne vende pas vos données sur
Marc
le net. Mais là, je suis sûr que
chez Google, on a des opinions. Je voudrais qu'on réponde à certains auditeurs qui s'inquiètent du fait que nous n'ayons pas du tout parlé de Macintosh. Par exemple, je vois qu'un auditeur nous demande, Max, par exemple, nous dit, avec un Mac, au moins, on n'a pas de problème de logiciel Microsoft. Est-ce qu'on peut quand même aborder cette question? Frédéric, si vous voulez, prenez la parole. Je sais que vous voulez répondre à Microsoft, mais très rapidement.
Oui, très rapidement à Marc Mossé, quand il parle de Google comme adhérent influent de l'April. Rappelez juste que les adhérents sont tous influents à l'April parce qu'ils ont tous un droit de vote et un autre adhérent influent, par exemple, c'est la Ligue de l'enseignement. Et juste un dernier point, parce que avant d'oublier, tout à l'heure, Marc Mossé a dit avec justesse que Nelly Kroos a effectivement annoncé que la vente liée n'était pas, enfin, les pratiques de vente liée n'étaient pas contraires à la concurrence. Certes, mais ça, c'est en Europe. En France, Éric Besson, Luc Châtel et Bruno Parent, directeur de la DGCCRF, ont à plusieurs reprises très clairement dit que la vente liée était illégale et ont annoncé que si les constructeurs, les fabricants et les éditeurs ne mettaient pas un terme à cette pratique de la vente liée, les pouvoirs publics prendraient leurs responsabilités. On peut espérer que la nouvelle secrétaire d'État prenne ses responsabilités.
On attend qu'il le fasse. Alors, Édouard Barrero, un mot sur... Oui, mais là, à 10h57, on n'a vraiment plus le temps de rentrer dans ce... À nouveau dans le débat de la vente liée. On a compris que vous étiez en désaccord, on l'a laissé s'exprimer. Je voudrais maintenant qu'on aborde le problème des Macintosh. Allez, on parle des Mac pour terminer l'émission.
Sur Mac, il y a deux remarques. La première... C'est un système propriétaire qui pose des problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on achète Mac, on reste enfermé dans l'univers Mac, ça c'est vrai. Mais il y a quand même un avantage, c'est que si vous voulez pas le système Mac, vous achetez pas un ordinateur Mac. Alors que quand vous allez dans un magasin, que vous prenez Hewlett Packard, Siemens, Fujitsu, Siemens ou je ne sais quoi, vous avez toujours Windows. Alors que Mac, il suffit juste de changer de machine. S'il y avait un ordinateur complètement Windows, il y aurait pas de problème de monopole, puisqu'il suffirait juste de changer de marque d'ordinateur et on pourrait choisir.
Vous voulez qu'on fabrique des ordinateurs, c'est ça que vous...
quitte à vouloir imposer un système, ben imposez-le dans vos propres ordinateurs et puis laissez-nous choisir après quand vers les autres.
Je crois que cette liberté de choix existe. Vous savez combien il y a d'ordinateurs qui sont vendus sans Windows?
Dites-moi.
1 million par an en France. 1 million. Donc quand on dit qu'il n'y en a pas, ça n'est pas exact.
À qui?
Ah ben, grand public, entreprise.
Est-ce que c'est au CNRS, voilà. Est-ce que c'est au CNRS, par exemple, qui l'exige, etc. C'est pas la même chose.
1 million sur 9 millions qui sont vendus sur Windows.
Non mais quand on dit le problème c'est pas celui-là, le problème c'est aller chez Carrefour, aller chez Auchan et essayer de trouver un ordinateur sans Windows, c'est ça le vrai problème.
Chez Leclerc par exemple, parce que je l'ai vu l'autre jour, vous en trouvez. Donc non, soyons précis.
On va se quitter avec une question très générale, allez, une question de culture générale, on va voir qui répond le premier. Dominique Anand nous demande quel est le pourcentage de Français qui ont un ordinateur et qui ont internet.
63%.
63%.
J'ai gagné?
Oui, sans doute. Edouard Barrero, la réponse est juste.
Je peux pas répondre à la question, je peux pas dire de bêtises.
Je pense que vous avez raison. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui, on l'a vu, hein, un débat très très chaud. On y reviendra certainement dans cette émission. C'est la question donc de ces fameux logiciels libres. Je vous rappelle que ce soir, le téléphone sonne reviendra sur cette question que nous avons abordée en début d'émission. La question des conséquences de la tempête. Dans un instant, place au fou du roi avec Pierre-Richard Epef comme invité. Passez une très très bonne journée à l'écoute de France Inter.
Les Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains inventent mieux bouger.
Comment tu fais pour danser comme ça avec ton arthrose? Quel rythme!
Ah, j'ai retrouvé ma souplesse, ça me donne des ailes.
Chaque année, des milliers de curistes trouvent aux Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains des soins exclusifs pour redonner de la mobilité aux articulations. Pourquoi pas vous? Et pour prolonger toute l'année les effets de la cure, les Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains inventent les cures mieux bouger.
Renseignez-vous en appelant le 3620 et dites mieux bouger.
Les Thermes Nationaux d'Aix-les-Bains, la référence thermale en rhumatologie.
Pour découvrir les conditions, appelez le 3620 et dites mieux bouger. Appel gratuit.
Demain dans Service Public, nous vous parlerons également avec l'UFC Que Choisir des hard discounts qui remportent de plus en plus de succès. Pourquoi un tel succès? Jusqu'où peut-on aller dans le moins cher? Vous l'entendez, il est 11h pile sur Inter. C'est l'heure du Flash Info présenté par Angélique Bouin.
680 000 maisons sont toujours privées d'électricité en ce lundi matin dans le sud-ouest. Le PDG d'EDF, Pierre Gadonnec, affirme que 90% du réseau sera réparé d'ici dimanche prochain, à l'exception des Landes, le département le plus touché par la tempête de ce week-end, où le système électrique doit être complètement reconstruit. Le délai sera donc plus long. 3 000 agents sont sur le terrain. Des renforts ont été envoyés d'Angleterre, d'Allemagne et du Portugal. 750 groupes électrogènes ont été déployés dans les régions touchées. 300 autres le seront dans la journée. Un peu partout dans ces départements, l'activité économique et administrative est à l'arrêt. On fait un point dans les Pyrénées-Orientales avec Elisabeth Badinier.
Dans les Pyrénées-Orientales, un quart des habitants n'ont toujours pas le courant. Une seule ligne à très haute tension sur 4 fonctionne et l'électricité est donc rationnée.